Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 3 février 1988.
Nous allons maintenant essayer de reprendre au plan philosophique le problème de la qualité tel qu'il se présente pour nous. C'est d'abord dans un jugement d'existence, souligner ce qu'est la qualité telle qu'elle apparaît pour nous. Puis on essaiera de préciser ce qu'est la qualité par rapport à l'être, c'est-à-dire par rapport à la substance, par rapport à l'âme, la qualité de l'homme. Proprement dite. Je crois que dans tous nos jugements d'existence, la qualité est présente. Je dis bien dans tous nos jugements d'existence. Quand vous dites ceci est, le ceci est atteint toujours par la qualité. Et je crois que ça, c'est un des caractères très particuliers de la qualité, c'est qu'elle est donnée immédiatement dans notre expérience. Il faut vraiment vouloir supprimer la qualité, la mettre entre parenthèses pour qu'elle disparaisse, parce qu'elle est présente de fait dans toutes nos expériences. Toutes nos expériences impliquent quelque chose de qualitatif. Évidemment, c'est avant tout les sensibles propres. Et en premier lieu, les sensibles propres. Dans notre expérience, c'est ça que nous saisissons en premier lieu. Le toucher. La vision. Ou la parole. Notre monde physique et notre propre corps dans le monde physique nous est révélé en premier lieu par les qualités. La lumière, la couleur, la chaleur, le froid, l'odeur. Ça, nous ne pouvons pas le nier. C'est une constatation que nous faisons tous les jours. Si nous sommes attentifs, parce qu'on peut très bien ne plus être attentif aux qualités. Mais quand on est très habitué, par exemple, de faire un parcours, on ne voit plus ce qui est particulier ce parcours. On est tout entier tendu vers le but. On surveille sa montre pour ne pas être en retard. Et on ne fait plus aucune attention aux qualités que nous constatons. Je crois que c'est aussi un petit phénomène auquel on doit être très attentif. Vous voyez, quand vous parcourez toujours le même parcours, le matin, par exemple. Ici, c'est jamais très vaste comme parcours, mais vous ne faites aucune attention. Ou vous méditez, très bien. Ou vous êtes pris parce que vous êtes en retard. Là, vous voyez, il y a un phénomène de vitesse, et d'attention au temps qui fait que les qualités sensibles sont un peu télescopées très facilement dans notre vie. Il faut que nous voulions être attentifs à à telle personne, à tel lieu. Autrement, on laisse tomber très vite. Parce qu'on est pris par un point de vue utilitaire. C'est le point de vue utilitaire qui est le plus grand ennemi de cette constatation des qualités. Je crois que ça, nous pouvons tous le constater. Dans la mesure où nous sommes pris par un point de vue utilitaire d'efficacité, vous voyez, arriver à temps, c'est l'efficacité quand même. C'est utilitaire et c'est l'efficacité. On fait beaucoup moins d'attention à tout ce qui est autour de nous. On fait beaucoup moins d'attention aux personnes qu'on rencontre. Même s'ils sont des frères, on est habitué. Raison de plus. Vous voyez, l'utilitaire, on est habitué. L'habitude. L'habitude fait qu'on est beaucoup moins attentif. Il faudrait aussi souligner, parce que quand il s'agit des qualités, il y a le monde extérieur, et puis il y a le monde intérieur. Notre monde intérieur nous met en présence de toute une série de qualités, d'aptitudes, de tendances, d'appétit que nous portons en nous. Ce monde intérieur nous est révélé aussi par des qualités. Vous voyez, nous sommes de bonne humeur ce matin. On ne sait pas trop pourquoi, mais on est de bonne humeur. Mais au contraire, vous êtes de mauvaise humeur. J'espère que vous êtes de bonne humeur quand même. Ce monde intérieur, si l'imagination est trop forte, on est plus attentif à son monde intérieur. C'est curieux. Vous voyez, ce qui empêche d'être attentif au monde extérieur, c'est l'aspect utilitaire, c'est l'aspect d'efficacité. Et dans le monde intérieur, c'est aussi l'efficacité, c'est sûr. Vous avez quelque chose à faire, vous ne pensez pas de savoir si vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur, vous le faites tout de suite. Et puis l'imaginaire empêche aussi de constater ce que nous portons en nous. L'imaginaire fait télescoper des quantités de choses. Alors l'imaginaire, est-ce que c'est un monde qualitatif ? L'imaginaire, c'est un monde qualitatif, mais un monde des sensibles communs. C'est très curieux que l'imaginaire est beaucoup plus saisi par les sensibles communs que par les sensibles propres. Quelqu'un qui vit dans l'imaginaire oublie les sensibles propres. C'est le mouvement, c'est le nombre, c'est la figure. C'est ça, le point de vue imaginaire. On a constaté du reste, c'est Sartre qui fait des remarques assez intéressantes là-dessus, dans l'imaginaire. De montrer que dans l'imaginaire, il ne prend pas les sensibles propres et les sensibles communs, mais si on analyse ce que dit Sartre, en pensant au sensible propre, au sensible commun, on s'aperçoit tout de suite ça. Et les psychanalystes sont très attentifs à ça. De voir le monde des rêves, c'est le monde de l'imaginaire. Dans les rêves, les sensibles communs l'emportent sur les sensibles propres. Surtout quand on est fatigué. Surtout quand on a des cauchemars. Les cauchemars ne sont jamais au niveau des sensibles propres. Ils sont toujours au niveau des sensibles communs. Vous êtes ligoté. Et un brigand s'approche de vous. Vous voyez une meute de loups qui s'approche de vous. grande quantité. Et vous êtes immobilisé. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes immobilisé. Vous ne pouvez pas fuir. Ou bien vous fuyez à toute vitesse. Et les loups vont plus vite que vous. C'est une course. Vous voyez ? J'espère que vous n'avez pas eu de cauchemar cette nuit. Mais si vous avez eu un cauchemar, réfléchissez, vous verrez que c'est les sensibles communs. Les sensibles propres disparaissent. Et alors, on a remarqué que ceux qui étaient psychologiquement malades, dans leur rêve, il n'y a plus que les sensibles communs. Et c'est quand ils commencent à aller mieux que les sensibles propres viennent. Donc si dans vos rêves, il y a des sensibles propres, dites-vous que vous allez bien. Ça vaut que ça va. Le psychisme n'est pas mauvais. C'est très curieux. Hein. C'est très curieux de voir que, de fait, l'imaginaire fatigue. Et les sensibles propres reposent. C'est tout le fondement de la méthode Vitoz, au point de vue philosophique. L'imaginaire fatigue. Quelqu'un qui vit dans l'imaginaire est fatigué, et son imaginaire continue de fatiguer. Il n'y a pas de repos. Et c'est quelque chose d'infini. Les sensibles communs, ça peut s'additionner indéfiniment. Donc, vous voyez, ça fait partie de cette constatation de ce qu'est la qualité. Très curieux que la qualité apparaît tout de suite comme ce qui permet de se fixer. Les qualités sensibles. Tandis que les qualités des sensibles communs, qui sont encore bien des qualités d'une certaine manière, qui nous conduisent vers la quantité, suppriment le repos. Donc, je crois que nous ne pouvons pas nier cette distinction que nous avons faite, qu'Aristote a fait, et que nous devons redécouvrir aujourd'hui, après Descartes, l'importance des sensibles propres. Ça, c'est de la qualité. Et nous ne pouvons pas reprendre un sens philosophique de la qualité si on met entre parenthèses les sensibles propres. Nous devons être très attentifs à ça. C'est la première chose qu'on doit constater dans notre monde d'aujourd'hui, à partir de Descartes. Et je dirais dans notre monde d'aujourd'hui qui est un monde scientifique. Notre culture est une culture scientifique. La culture scientifique tend à faire disparaître les sensibles propres, alors que la culture artistique tend à nous donner un sens très aigu des sensibles propres. C'est pour ça qu'une culture artistique est qualitative, une culture scientifique fait que progressivement les qualités disparaissent. Et c'est pour ça que la science s'oriente beaucoup plus vers le domaine de la quantité et par là matérialise. Ça, c'est la constatation que nous devons faire au point de vue du monde qualitatif. Nous pouvons comprendre que, au-delà de ces qualités qui sont données immédiatement, par où nous sommes en contact avec l'univers, la qualité permet le contact et elle réalise le contact par les sensations. Et les sensations des sensibles propres. Et les sensations des sensibles propres permettent un contact qui est, j'allais dire, toujours nouveau. La lumière, c'est toujours quelque chose de nouveau. Les sons, c'est toujours quelque chose de nouveau. Et ça ne s'accumule pas, les sensibles propres. Il y a quelque chose d'irréductible à chaque sensible propre. Et quelque chose d'unique par le fait même. Je vous dis, ça ne fatigue pas. Et ça permet le contact avec l'autre. Et ça permet le contact avec notre corps et les réalités extrinsèques à nous. Et en même temps, tout le domaine des qualités intérieures permet de comprendre un certain approfondissement qui est en nous. Comprendre qu'au-delà de ce que nous constatons immédiatement par nos opérations, il y a quelque chose qui est source de ces opérations. Quand nous pensons, quand nous aimons, quand nous imaginons, il y a une source. Pourquoi ? Nous posons un au-delà des qualités immédiatement senties. Parce que nous constatons que nous pouvons imaginer et ne plus imaginer. Nous pouvons sentir, voir et ne plus voir. Nous pouvons toucher et ne plus toucher. Ce qui nous met en état d'alerte. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la sensation? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la pensée actuelle? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'amour actuel? Au-delà de nos diverses opérations. Nous constatons, si nous sommes un peu attentifs, que nous pouvons, quand nous voulons, voir, ouvrir les yeux et voir. Et toucher, et penser, et vouloir aimer, et imaginer. C'est très curieux, cette constatation, au-delà de ce qui est donné immédiatement, la constatation de certaines petites sources, de certaines aptitudes. Nous pouvons voir quand nous voulons. C'est l'affolement du reste. Hein, quand vous voulez voir et puis tout d'un coup vous ne voyez plus. Ça affole. Quand vous voulez toucher que vous ne sentez plus rien. C'est pas arrivé. Certaines maladies arrêtent ce contact avec les sens externes, avec les réalités externes. Ou que vous voulez penser que vous n'y arrivez pas. Il y a un affolement. On n'est plus maître de la situation. Vous voyez comment on passe de ces opérations que nous ressentons en nous, de ce contact avec les qualités sensibles, nous découvrons qu'il y a en nous des aptitudes. On va appeler ça dunamis, en grec, potestas, puissance. Je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux plus employer le mot faculté. C'est les scolastiques qui emploient ça. On a tellement critiqué les facultés qu'il vaut mieux plus l'employer. Il vaut mieux dire puissance. Ça vaut des puissances en nous, des capacités de voir, de sentir, de toucher. Alors, est-ce que c'est une induction? Petite induction. C'est intéressant, puisque ça, on est bien obligé de constater ça. J'ai, j'ai la capacité de voir certaines visions. J'ai la capacité de toucher quand je veux. Et puis je m'affole quand je ne peux plus le faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sens paralysé. C'est comme ça que ça commence. Hein. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit de nos paralysies. Quelque chose qu'on faisait habituellement sans y penser, tout d'un coup on ne peut plus le faire. Ou cette espèce de fait que quand nous touchons, on ne sent plus rien du tout. On a tous vu des gens un peu affolés comme ça. Vous voyez, c'est très intéressant à reconnaître ça. Parce qu'on voit très bien que l'angoisse provient de ce manque de contact direct par les qualités. Je crois qu'il faut que nous comprenions très très fort l'importance de ce contact avec le monde extérieur. L'importance de cette découverte des qualités. On perd pied. Quand on n'a plus ce contact, on ne sait plus très bien où on va. Alors, est-ce que le passage de ces diverses sensations que nous, dont nous avons conscience immédiatement, avec le fait de poser quelque chose que nous ne saisissons pas immédiatement, sont par l'intermédiaire de nos opérations. Vous n'avez pas saisi ce que c'est que la puissance de vision. Et pourtant, vous dites bien que la puissance de vision, c'est une capacité. C'est de l'ordre des qualités. Ça vous rend apte à tout un champ d'exploitation, de contact. La même chose pour l'ouïe, pour tous les sens. La même chose pour l'intelligence. Alors, est-ce que poser ces facultés, ces puissances, ces capacités, est-ce que c'est une induction? Posez-vous la question. C'est intéressant au point de vue critique. Ou bien c'est quelque chose d'immédiat. C'est intéressant pour savoir exactement la connaissance que vous avez de vos puissances, de vos vertus. Quelle connaissance avez-vous de votre œil? Pas de l'œil du voisin, mais de votre œil. On pourra l'analyser biologiquement, c'est sûr, et vous saurez toutes les parties de votre œil. Ça, vous l'analysez, vous le mesurez. Mais la connaissance que vous avez de votre œil en tant que puissance vitale, c'est ça qui est intéressant au point de vue philosophique. Quelle connaissance avez-vous de votre œil? Quelle connaissance avez-vous de toucher? Quelle connaissance avez-vous, capacité d'entendre? Puis subitement, vous voyez que vous entendez moins. Puis à un certain moment, vous n'entendez plus rien du tout. Vous allez voir vite le médecin. Comment connaissez-vous l'intelligence comme puissance à penser? Quelle connaissance avez-vous de la volonté? Tout ça est présupposé connu en philosophie du vivant. Je me pose la question ici, au plan philosophique première, ces opérations sont qualitatives, elles me mettent en présence de tout un monde intérieur très qualifié. Quelle connaissance ai-je de ses puissances, de ses vertus? Et je peux très bien m'apercevoir que grâce à un exercice répété, j'ai suivi des cours de philosophie pendant 3 ans, 4 ans. Quel résultat? Je pense mieux, du moins j'espère. Je pense beaucoup plus facilement, j'arrive à faire le discernement entre la pensée et l'imagination. Ça, c'est un discernement extraordinaire. Une fois que vous avez commencé à faire ce discernement, vous pouvez dire que vous entrez en philosophie. Pas avant. En philosophie grecque, on voit que ça a mis du temps de faire le discernement entre l'imaginaire et la pensée. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à faire la distinction ? Est-ce que vous avez pensé déjà ? Ou est-ce que vous avez uniquement imaginé ? Dans les classes maternelles, on favorise l'imagination. Dans les classes de philosophie, on favorise la pensée. Très souvent, on retourne le complexe océanique, on retourne à l'école maternelle, c'est tellement plus facile. On fait des petits croquis, des petits dessins, c'est tellement plus facile. Faire le discernement entre l'imaginaire, le domaine de la représentation, et le domaine de la pensée. L'imaginaire, c'est la représentation. Et la pensée, c'est la signification. Et la pensée a quelque chose d'universel, alors que l'imaginaire, c'est toujours particulier et singulier. Pour arriver à discerner ça, c'est très important. Domaine de la qualité, connaître un peu vos qualités. Alors, je reviens à la question, la puissance de l'œil. Est-ce que c'est une induction qui vous permet de poser cette puissance? De même pour le toucher. Vous voyez, c'est pas si commode que ça d'y répondre. Il faut y réfléchir. Parce qu'on affirme, j'ai l'intelligence. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez l'intelligence? Ah oui, je pense. C'est très vrai. Si vous pensez, vous avez l'intelligence. Et vous pouvez penser quand vous voulez. C'est ce qu'il y a de mieux. Cours de philosophie, après l'élude. Et on vous demande de penser. Bien que vous n'ayez rien dans l'estomac. C'est extraordinaire. C'est pour vous habituer à faire que votre esprit domine un peu votre corps. Vous voyez ? Une petite assaise excellente. Parce que celui qui, dès qu'il se lève, se précipite sur son petit déjeuner, il lui manque cette assaise-là. Et ça lui manquera toute sa vie. Il oubliera qu'il a une âme. Qu'il a une âme spirituelle faite pour penser. Déjà, quand on prie, on comprend qu'on a une âme spirituelle. Mais si l'oraison est un prolongement de notre sommeil, avec un situs nouveau, on n'a pas encore fait le discernement. Tandis qu'au cours, c'est plus difficile de dormir, parce qu'on a un voisin qui charitablement est là pour nous réveiller. La charité au cœur étant plus grande, on ne réveille pas le voisin sauf s'il ronfle. Autrement, on ne le réveille pas. On laisse bien dormir dans son horizon de quiétude, après tout. C'est peut-être l'horizon de quiétude. T'en vois pas le réveiller, qu'est-ce que tu fais? On le laisse dormir. Paisiblement, tandis qu'au cours, pas dans raison de quiétude au niveau de l'intelligence, et donc on réveille tout de suite, et on essaie de penser, on essaie de réfléchir. Ce passage de la pensée à la puissance. Vous voyez, c'est une découverte quasi immédiate. C'est pas une induction. Je n'induis pas. Je garde un contact continu. L'opération est dans la puissance. La vision est dans la puissance. Pas extrinsèque. Elle est autre chose. Elle est une qualité autre. Mais elle est dans. Ma vision est présente à mon œil qui voit. Que je peux même de l'extérieur arriver à saisir dans la pupille ce que je vois. C'est bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour les voyants. Comme ça, on voit s'il voit quelque chose d'objectif. On ne voit pas s'ils ont quelque chose d'objectif. Quand vous me regardez, il y aurait quelqu'un qui viendrait analyser, il verrait qu'il y a une petite image dans votre pupille. Donc la vision est bien intime à notre faculté, notre puissance, à notre faculté intérieure qui porte ça. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une induction. Je crois qu'il y a un approfondissement de l'analyse qui fait découvrir ce domaine très particulier de nos capacités. Vous voyez que le registre des qualités est très divers. Mais c'est extrêmement important de comprendre ça. Domaine intérieur, domaine extérieur. Domaine immédiat, domaine médiat. C'est la qualité qui fait l'unité de tout ça. Donc, le domaine de la qualité unifie une très grande diversité. C'est une des, j'allais dire, une des qualités de la qualité, vous voyez. Une des propriétés de la qualité, c'est de maintenir et de faire l'unité en nous, dans la diversité, tout de suite. Je vais un peu plus loin. Quand je suis en face de la lumière fait l'unité de notre cosmos pour nous. C'est une des constatations qu'Aristote faisait, que saint Thomas a fait, que le père Teilhard fait aussi. Qu'est-ce qui fait l'unité de toute notre vision? C'est la lumière. Et comment la qualité fait l'unité de notre cosmos. Donc la qualité fait l'unité de ce petit cosmos qui est nous. Et la qualité du grand cosmos, qui est l'univers. Et c'est la qualité qui fait l'unité. Au-delà de la diversité existe. Dès qu'il y a un domaine qualitatif, il y a tout de suite la diversité. J'ai cinq sens. Je ne peux pas nier qu'il y a une diversité. Et je ne peux pas nier que cette diversité, j'en ai conscience. Et je m'aperçois que ce qui fait la fausse unité, c'est l'imaginaire. Il y a la véritable unité, la fausse unité. Comme c'est important de découvrir ça au point de vue de notre psychisme. Et je vous disais tout à l'heure, l'imaginaire fatigue parce qu'il ne met pas d'unité. L'unité seule permet le repos. Et quand le psychisme est un peu fatigué, pour ne pas dire un peu malade, quand notre psychisme est un peu fatigué, un peu malade, il bat la campagne. C'est ça qui est si fatigant d'être auprès d'un fou. Un fou doux, gentil. Il passe du coq à l'âne, avec une de ses rapidités extraordinaires. Comme un gosse. Mais la différence du gosse, c'est que c'est qualitatif. Un gosse, c'est une question d'attention. Alors, il est pris par n'importe quel bruit, que n'importe quelle petite réalité, n'importe quelle chose particulière sur votre visage, il vous regarde tout de suite. Tiens, il y a ça. Immédiatement, j'avais jamais fait attention, et puis lui, il regarde tout de suite. Il met son doigt pour toucher. Si ses parents n'ont pas de lunettes et que vous avez des lunettes, ça, c'est le comble de l'attention. C'est ces trucs invraisemblables qu'on a sur le nez. Et puis ça joue le rôle de miroir. Voyez, il est très attentif à la diversité. Mais c'est une diversité qualitative. Le fou, C'est une diversité imaginative. Et c'est le premier signe de folie, c'est qu'il n'y a pas de repos. Il n'arrive plus à dormir. Puis arriver à dormir, c'est un petit signe de folie. Oh, très doux. Très doux. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'on n'arrive plus à dormir? Ça veut dire justement que ce domaine de la qualité n'unifie plus. Et que c'est, on glisse vers le domaine de la quantité. Oui, j'insiste un peu parce qu'on n'insiste pas assez, on passe tout de suite les qualités. Ayez l'expérience du monde des qualités. C'est ça qui vous permettra d'être un peu plus équilibré. Et le déséquilibre provient du fait qu'on perd le contact des qualités. Et le déséquilibre vient vite, vous voyez, dans une vie qui cherche à s'intérioriser. Dans une vie qui ne cherche pas à s'intérioriser, l'équilibre vient alors de l'efficacité. L'équilibre vient de ce que nous faisons, de notre facere. Mais pour une vie où il n'y a plus de facere, où il n'y a plus beaucoup d'efficacité, l'équilibre ne peut être que du côté qualitatif. C'est beaucoup plus beau, du reste, c'est beaucoup plus grand. C'est un équilibre beaucoup plus grand, l'équilibre de la qualité. Mais c'est la qualité qui nous équilibre. C'est la conscience de ces qualités. Et encore, voyez, faisons attention. Parce que je peux très bien avoir conscience de mes qualités et retomber dans mes souvenirs. Et retomber dans l'imaginaire. Je peux m'imaginer les qualités. Et quand je m'imagine les qualités, ce n'est plus la qualité. C'est l'imagination de la qualité. Alors là, il y a un problème très intéressant qui se pose à propos du cinéma. Est-ce que le cinéma nous met en présence de vraies qualités ou est-ce que c'est un domaine d'un art quantitatif, donc d'un art inférieur, comme le roman par rapport au théâtre? Et ça, c'est des petits signes. Notre monde qui glisse vers le domaine quantitatif. Des petits signes. Évidemment, des très beaux films sont qualitatifs. Mais il faut encore être attentif. Est-ce que c'est vraiment le domaine de la qualité? Ou est-ce que c'est le domaine des sensibles communs? Et nous glissons vers un monde de quantité pure. Et nous glissons vers un monde qui ne sait plus ce que c'est que la qualité. Qui a perdu complètement le sens de la qualité. Vous voyez ce que c'est que la qualité dans les tissus de nylon. Vous voyez la qualité dans des fleurs artificielles. C'est affolant. Des gens qui vivent dans des fleurs, avec des fleurs artificielles. On a envie de les brûler. Parce que c'est pas sain. Et les gens vivent là-dedans. J'aime mieux voir des fleurs qui ne vivent qu'une journée, puis qui se fanent. Se faner, c'est encore la qualité, quoi. Ça prend des couleurs nouvelles, quand ça se fane. Ça prend des situs différents, vous voyez, ça s'incline majestueusement devant vous, tandis que bref, c'est des qualités. Tandis que l'autre côté, non, ça ne s'incline jamais. Ça garde cette rigidité affolante. C'est curieux. Soyez attentifs au milieu qualitatif dans lequel vous vivez. Et ne perdez pas trop vite le contact avec la qualité. Ça, c'est le philosophe qui dit attention, attention pour l'équilibre humain. C'est fatal. Un monde qui perd le sens de la qualité est un monde qui se déséquilibre et qui progressivement tend vers la folie. Alors, on doit être attentif à ça. Et ne pas se laisser aller au monde de l'imaginaire. Donc vous voyez, pour nous, c'est capital la qualité. Je vais un peu plus loin au point de vue philosophique et au point de vue critique, dire que la qualité nous donne le sens de l'analogie. Alors ça, j'y reviendrai, parce que c'est une des portes par lesquelles on entre dans ce problème de l'analogie auquel on parle tout le temps et auquel on ne s'arrête jamais. Il faut quand même savoir ce que c'est que l'analogie. Et c'est par la qualité que vous entrez dans l'analogie. Vous voyez, la pensée dialectique est quantitative. Et la pensée analogique est qualitative.